dans un livre sacré. Épisode 2, le mensonge du déluge universel. De tous les récits sacrés que l'humanité a portés dans sa mémoire, celui du déluge demeure l'un des plus obsédants. Il se dresse dans la Bible comme une plaie ouverte, une histoire d'eau et de colère, de châtiment et de prétendue purification. Il vient après la faute originelle comme une seconde condamnation plus implacable encore. Dans l'épisode précédent, nous avons démontré le mythe de la création, cette illusion d'un commencement ordonné par une main parfaite. Nous avons vu que le premier mensonge était celui du contrôle divin absolu, celui d'un monde façonné pour l'obéissance. Le déluge, lui, naît de ce même mensonge, mais en y ajoutant la cruauté. C'est le prolongement d'une idée folle, celle d'un Dieu tout-puissant, capable de regretter son œuvre et d'y mettre fin dans un spasme de vengeance. Ce récit n'a pas seulement servi à justifier la peur, il a aussi légitimé la violence et la soumission. Il a enseigné à l'humanité qu'elle devait trembler pour survivre, qu'elle devait accepter la destruction comme moyen de salut. Et pourtant, lorsque l'on gratte la surface du mythe, il ne reste que l'absurde. Un bateau trop petit pour contenir la vie, une pluie sans fin qui défie toute loi physique, et un homme qui prétend sauver le monde dans une horche de bois. Avant que l'eau ne monte dans le récit biblique, remontons à la source de cette fiction millénaire. Le déluge universel n'est pas seulement une légende, c'est un symbole, une arme et une illusion entretenue. Son analyse dévoile non pas la grandeur d'un Dieu, mais la peur d'un peuple cherchant désespérément à comprendre le chaos du monde. Un mythe recyclé de Babylone à la Genèse. Le déluge biblique n'est pas né en terre d'Israël. 1000 ans avant Moïse, la Mésopotamie récitait déjà l'histoire d'un homme averti par un dieu de construire un bateau pour échapper à une inondation qui devait effacer l'humanité. Les dieux mésopotamiens, là du vacarme des hommes, décidaient de les réduire au silence par les eaux. Lorsque les Hébreux furent déportés à Babylone, ils héritèrent de ces récits anciens et les transformèrent. Ils remplacèrent la multitude des dieux par un seul dieu et la colère divine par une morale. Si les hommes mouraient, c'était pour avoir péché. Le châtiment devint pédagogie, la peur devint foi, le conte se fit loi. Ainsi naquit le déluge biblique, un plagiat transfiguré en dogme. Là où les Babyloniens racontaient une catastrophe naturelle, peut-être, les Hébreux imposèrent une leçon spirituelle. Le mythe, instrument de mémoire, devint instrument de pouvoir. L'impossible bateau quand la foi défie la physique. La Genèse attribue à l'âge des dimensions précises. 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Soit environ 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 de haut. Ces proportions feraient de l'âge un navire de bois gigantesque, presque aussi long qu'un bâtiment moderne de 12 étages. Or, la physique du bois rend un tel vaisseau impossible. Les charpentiers maritimes savent que la résistance du bois décroît rapidement au-delà d'une certaine longueur. Les plus grands navires en bois jamais construits, comme le Wyoming, début du 20e siècle, long de 100 mètres, se tordaient sous le poids de la mer. Leurs flancs se disloquaient, les jointures cédaient et ils prenaient l'eau jusqu'à sombrer. Et pourtant, ces navires disposaient de boulons d'acier, de goudrons, de charpentes croisées et d'une main-d'œuvre expérimentée. Noé, selon le récit, travaillait seul, avec des outils primitifs et sans chantier naval. Mais même si l'arche avait miraculeusement tenu, elle n'aurait jamais pu flotter chargée, car vient alors la question du contenu. L'impossible cargaison, la barque des impossibles. La Bible dit que Noé prit un mâle et une femelle de chaque espèce vivante. Aujourd'hui, on dénombre environ 8,7 millions d'espèces animales connues, dont 6,5 millions terrestres. Même si l'on n'en retient qu'une fraction, disons 50 000 espèces, en excluant insectes, poissons et microbes, cela représente 100 000 animaux à bord. Si chaque couple d'animaux disposait d'à peine 2 mètres carrés, il faudrait 100 000 mètres carrés d'espace. En 3 dimensions, cela correspond à environ 200 000 mètres cubes de volume utile. Or, le volume total de l'arche, selon ces dimensions bibliques, ne dépasserait pas 40 000 mètres cubes. Autrement dit, elle aurait été 5 fois trop petite pour en contenir ne serait-ce que cette portion réduite du règne animal. Et cela ne tient pas compte de la nourriture. Les éléphants, les chevaux, les bœufs et les girafes auraient exigé des tonnes de fourrage. Les félins, les serpents et les oiseaux de proie, des milliers de kilos de viande fraîche. Quant aux herbivores, ils auraient eu besoin d'eau douce, impossible à stocker en telle quantité. Rien que pour nourrir ces animaux pendant 40 jours, il aurait fallu charger plus de 15 000 tonnes de vivres, sans compter les récipients, outils et provisions humaines. À cette charge s'ajoute le poids des cages, des planchers, des réservoirs et des 8 passagers. Un navire en bois surchargé de cette masse se serait enfoncé dès sa mise à l'eau. Le bois, saturé d'humidité, aurait perdu sa flottabilité, se tordant sous la pression des flots avant de se disloquer. En vérité, l'arche n'aurait pas coulé au 40e jour, mais dans la première heure, pour ne pas dire les premières minutes. Le bois se serait fendu, l'eau aurait envahi les cales, les animaux paniqué aurait ajouté à la confusion et tout l'édifice aurait sombré dans une symphonie de cris, de gémissements et de bulles. Le cauchemar de l'assainissement, c'est-à-dire à l'hygiène et à la gestion des déchets. Mais supposons encore l'impossible. L'arche flotte. Alors commence un enfer biologique. 100 000 animaux, 8 humains, des milliers de cages, des réserves de nourriture en décomposition, de l'humidité, des maladies. Chaque jour, ces bêtes auraient produit plusieurs tonnes d'excréments. Un seul éléphant émet jusqu'à 150 kg de fumier par jour. Les chevaux, environ 20. Les bovins, 30. Multipliez cela par des centaines de bêtes de grande taille et des milliers de plus petites. En une semaine, l'arche aurait accumulé plus de 400 tonnes de déchets organiques. Sans ventilation, l'ammoniaque dégagé aurait rendu l'air irrespirable. Sans système d'évacuation, les cales se seraient transformées en marécages d'excréments et d'urine. Comment 8 personnes auraient-elles pu nourrir, nettoyer, soigner et gérer cette ménagerie infernale? Où aurait-elle jeté les ordures? Par quelle ouverture? Vers quelle mer déjà saturée de boue? Et qu'en serait-il des maladies, de la putréfaction, des parasites, des rats inévitables dévorant les provisions et les œufs? L'arche, sanctifiée par les catéchismes, aurait été un laboratoire de peste. En réalité, elle n'aurait pas été un sanctuaire, mais une fosse flottante. La promesse de vie qu'elle symbolise n'aurait été qu'un tombeau pestilentiel dérivant sur les eaux. Le mensonge moral et politique. Le mythe du déluge ne se limite pas à une absurdité physique. C'est une perversion morale. Il dépeint un Dieu qui tue pour purifier, qui punit avant de pardonner, qui détruit avant de réconcilier. Ce Dieu-là ne sauve pas. Il se venge. Il efface ce qu'il a lui-même façonné et appelle cela justice. Mais plus encore, ce récit impose un modèle de soumission. Noé, l'homme idéal, n'est pas un sage. Il est un serviteur. Il ne questionne jamais le commandement. Il obéit, construit, enferme, attend. L'ange devient une parabole de la servitude. L'obéissance sauve, la réflexion condamne. C'est là le vrai sens politique du déluge. Le pouvoir religieux s'y affirme dans toute sa splendeur. Il dit à l'homme, « Tu vis parce que tu obéis. Et si tu désobéis, tu seras noyé. » Le mythe devient l'instrument de contrôle spirituel absolu. Les peuples, pétrifiés par la peur, finissent par confondre la soumission avec la foi et la terreur avec la vérité. Le mensonge du pardon. Après le massacre, Dieu promet de ne plus recommencer. Il offre l'arc-en-ciel en signe de paix. Mais quel pardon efface un génocide? Quel arc-en-ciel peut couvrir le cri d'un enfant noyé? Ce faux pardon cache une hypocrisie terrible. On tue d'abord, on bénit ensuite. C'est la rhétorique des bourreaux. Les siècles suivants s'en inspireront. On brûlera les hérétiques pour sauver leurs âmes. On massacrera des peuples pour en civiliser leurs terres. On invoquera Dieu pour justifier l'horreur, comme Noé invoquait l'ordre du ciel pour enfermer la vie dans une prison de bois. Le naufrage des dieux. Le déluge universel n'a jamais existé. Ni les géologues, ni les paléontologues, ni les océanographes n'en ont trouvé la moindre trace. Mais le mensonge a survécu parce qu'il sert. Il enseigne la peur et la peur gouverne mieux que la raison. Ce déluge n'a pas noyé le monde. Il a noyé la pensée. Il a appris au peuple à se méfier d'eux-mêmes, à croire qu'ils méritent la punition, à supplier leur maître pour survivre. Mais la vérité, elle, flotte encore. Elle n'a pas besoin d'orge, car elle ne craint pas la mer. Elle navigue sur les vagues de la raison portée par ceux qui refusent le mensonge sanctifié. Car il n'y a pas eu de déluge universel. Il n'y a eu qu'un flot de peur et des millénaires de silence. Et si l'homme veut encore se sauver, qu'il cesse d'attendre l'ange, qu'il apprenne à marcher sur la terre ferme de la vérité. C'est ainsi, chers amis, que s'achève notre deuxième épisode. À très bientôt pour le troisième. Qui trahit